dire non. Est-ce que c'est si négatif que cela? À l'époque où j'animais mes séminaires sur les jeux de pouvoir, pour apprendre aux gens justement à repérer les jeux de pouvoir interpersonnels et pour pouvoir les désamorcer, pour ne plus être victime des jeux de pouvoir venant des autres ou alimentés par nous-mêmes, une des choses que j'apprenais à mes participants dans les salles de séminaire, c'était à dire non. C'était à poser leurs limites. Et ça ne ratait pas. À chaque fois, il y avait au moins un ou deux participants qui m'interpellaient en disant « Mais Jean-Jacques, dire non, c'est négatif. C'est vraiment pas quelque chose de positif. Hein? C'est pas bien de dire non, etc. » Et c'est vrai que notre éducation nous a conditionnés, nous a préparés à penser que dire non, c'est nécessairement quelque chose de négatif. Eh bien, vous le savez, dans le cadre de cette émission « Grandir en conscience, en amour, en compétence », j'aime toujours vous montrer l'envers du décor, vous montrer une autre facette de la réalité. Et pour moi, je vous dirais deux choses à propos du fait de dire non. Première chose, c'est que, à mon avis, dire non est un des actes les plus subversifs qui puisse exister dans une société qui est basée sur les rapports de pouvoir. Et là, je parle de la société au sens large du terme. Et je serais presque tenté à dire que l'acte le plus subversif, c'est le fait de dire non à quelqu'un. Surtout si ce quelqu'un a une autorité, représente ou exerce un certain pouvoir. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire, et bien entendu, je vais le développer. Deuxième chose que je veux vous dire à propos du fait de dire non, c'est que pour moi, d'après moi, dire non, c'est probablement une des choses les plus positives que nous puissions faire pour notre propre vie, notre propre intégrité et notre propre existence. C'est-à-dire que dans notre capacité à dire non, nous allons développer quelque chose qui sera fondamentalement porteur de vie. Voilà le menu de cette émission d'aujourd'hui. Il arrive très souvent que des parents me disent « Oh là 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 là, on passe une période difficile avec notre fils ou avec notre fille. Il ou elle vient d'entrer dans sa phase du non. Hein? » Et on croit faire beaucoup de psychologie intelligente en disant que l'enfant est dans sa phase du non. Comme si, dans l'inconscient des parents, la phase du non, ça avait un début et une fin. Ben oui, quand vous dites c'est la phase du non, eh ben ça veut dire que ça a un début et ça a une fin. Et tous les parents du monde espèrent, non pas tous les parents du monde, mais beaucoup de parents espèrent effectivement que ce satané bambin qu'on a voulu de tout notre cœur, etc., et qui là est en train de nous casser les pieds littéralement, on espère vraiment que ce bambin va terminer rapidement sa phase du non. Parce qu'en fait, quand vous y réfléchissez, quand un enfant dit non aux parents qui l'élèvent, qui l'éduquent, qui le nourrit, etc., eh bien, c'est une atteinte au pouvoir, c'est une remise en question du pouvoir de l'adulte. Ça renvoie l'adulte, en fait, à son impuissance, à sa totale impuissance. Et c'est ça qui est extraordinaire en même temps dans le fait de pouvoir dire non à quelque chose, à quelqu'un, si vous voulez. Et j'aimerais vous faire comprendre, vous faire sentir pendant quelques minutes à quel point réapprendre à dire non, à ne plus se culpabiliser du fait de dire non, et de dire même que c'est un des actes les plus positifs que nous puissions poser vis-à-vis de notre propre vie, de notre propre intégrité, ça va vous permettre de redécouvrir ou de découvrir une puissance insoupçonnée que vous avez sur le plan personnel, sur le plan relationnel et dans votre rapport au monde. C'est-à-dire dans les trois grands rapports que l'on décrit habituellement dans tous les traités de philosophie, le rapport à soi, le rapport à l'autre et le rapport au monde. Eh bien, dans le rapport à soi, vous allez découvrir une puissance beaucoup plus grande. Dans le rapport aux autres, vous allez découvrir une puissance. Je ne vous parle pas de pouvoir, là. Je vous parle de puissance et je ferai la distinction dans quelques instants. Et vous allez découvrir aussi une puissance par rapport au monde. Et vous allez découvrir, en fait, un potentiel de faire changer des choses dans votre vie juste en apprenant à dire non. Alors, revenons au début, à la toute petite enfance. Dans la toute petite enfance, quand un enfant refuse d'ouvrir sa bouche, hein, c'est une façon de dire non, mais il n'a pas encore la parole, mais on veut lui donner à manger, et là l'enfant fait Qu'est-ce que le parent peut faire? Le parent se retrouve impuissant face à ce petit bambin qui ne pèse que 3, 4, 5, 6 kilos, cet adulte de 80, 90, 100 kilos va se trouver impuissant. C'est-à-dire que la seule ressource, le seul recours que l'adulte pourrait avoir éventuellement pour obtenir ce qu'il veut, c'est la violence. Donc en fait, la seule façon de sortir de cette situation d'impuissance, c'est de recourir à la violence physique. Mais si l'adulte qui est en face de vous refuse, pour des raisons éthiques, pour des raisons morales, pour des raisons de respect, etc., refuse d'entrer dans la violence, le fait que l'enfant dise non renvoie l'adulte à sa totale impuissance. Et nous allons voir que c'est vrai aussi dans le monde adulte, évidemment. Mais je commence par l'enfant, parce que déjà l'enfant a appris de façon très dure que quand il dit non, à la fois il entre dans sa puissance, mais en même temps il risque de subir les foudres de violence des éducateurs qui sont en face de lui. Parce que quand l'enfant refuse d'aller à l'école, quand il dit « non, je ne veux pas aller à l'école », quand l'enfant dit « non, je ne mettrai pas ce pantalon », quand l'enfant dit « non, je ne me couperai pas les cheveux », « non, je ne veux pas ci », « non, je ne veux pas ça », etc. « Non, je ne veux pas marcher », hein, vous partez en promenade en disant « ouais, ça va être une chouette promenade en famille », etc. Et puis vous avez le bambin qui traîne les pattes derrière. Toute la famille est prise en otage par ce « non ». Et donc, c'est clair qu'à un moment donné, les parents vont faire preuve, pas seulement d'autorité, mais de pouvoir sur le plan physique, parce que c'est la seule supériorité qui leur reste. C'est le pouvoir physique. C'est la violence physique. En emportant ce bébé ou ce gamin et en l'emmenant de force finalement à continuer la promenade. Alors bon, mais n'empêche que ça va quand même gâcher une partie de la promenade. Dans l'adolescence, il y a une phase de non, hein, une phase, hein, je suis moi-même piégé par les mots, il y a une situation de non où l'adolescent va rejeter les valeurs ou la religion de ses parents, et l'adolescent va rejeter le mode alimentaire de ses parents. Je connais toujours d'ailleurs une de mes très grandes amies qui avait éduquer ses trois enfants à l'alimentation saine, biologique, etc. C'était une pionnière à l'époque, puisque cette femme dont je vous parle est beaucoup plus âgée que moi, et donc a eu des enfants adolescents que j'ai connus au début de ma relation avec cette femme. Et ces trois enfants, dès qu'ils sont devenus adolescents, ont couru au McDo, ont couru pour bouffer toutes les crasses possibles et imaginables, mais c'était plus en réaction contre. C'était une façon, si vous voulez, de chercher et d'affirmer leur identité et de chercher aussi à préserver leur intégrité. Et pour cela, ils avaient besoin de dire non. Donc, on se rend compte que dans toute notre éducation, chaque fois que nous avons dit non, nous avons renvoyé notre éducateur ou nos éducateurs à leur impuissance. Parce que c'est vrai que fondamentalement, et c'est ça que je veux amener comme point, nous ne pourrons jamais manipuler l'autre jusqu'au bout. Parce que si l'autre est prêt à mourir et qu'il dit « non, je ne ferai pas ça », et il se fait pointer une arme sur la tempe et on lui dit « maintenant tu vas le faire », donner le code secret du coffre-fort pour déverrouiller tel truc ou donner le nom de tes complices, etc. Et l'autre dit, ben, tue-moi. Si on arrive à un niveau de détachement par rapport à l'existence, parce qu'on voit notre vie du point de vue de l'âme et on a estimé que nos valeurs, la défense de nos valeurs à ce moment-là, ou la protection de certaines informations, ou la protection de nos complices dans la résistance, par exemple, était plus important que notre propre vie, celui qui nous menace de son arme avoue sa totale impuissance face à notre simple refus de parler, face à notre simple façon de dire non. Et vous remarquez que dire non est un acte totalement non-violent. Parce que quand vous dites non, vous n'avez même pas besoin d'argumenter. C'est ça le piège dans lequel très souvent on se met en essayant de dire non. On dit non, mais en essayant de se justifier. Alors quand on commence à donner des raisons pour lesquelles on dit non, l'autre va pouvoir trouver un contre-argument pour... parce qu'il va s'appuyer sur l'argument que nous avons utilisé. Mais si on dit simplement « non », vous voyez, il n'y a rien de violent dans le fait de dire « non, je n'irai pas au cinéma avec toi ce soir » ou « non, je ne ferai pas ce que tu me demandes ». Oui, mais pourquoi ? Non, je ne le ferai pas. Et vous vous taisez. Je ne sais pas si vous sentez la puissance que vous pouvez acquérir. Et l'autre en face, son dernier recours, ce serait de vous tuer, mais même en vous tuant, il aura perdu. Il aura perdu ce jeu de pouvoir. Parce que ultimement, effectivement, nous ne pourrons jamais, jamais, jamais manipuler l'autre jusqu'au bout. Il y aura toujours un moment où la manipulation va être confronté à une limite. Et cette limite, c'est la limite de ma propre impuissance quand je veux essayer de manipuler l'autre. Et cette limite, c'est surtout la souveraineté que l'autre détient dans sa capacité à dire non en regardant celui qui le menace dans les yeux. C'est Gandhi, parce que je vous parlais de non-violence justement, c'est Gandhi qui disait « Un individu conscient et debout, c'est-à-dire sans peur, est beaucoup plus dangereux pour le pouvoir en place que 10 000 individus endormis et apeurés. » Et je pense que Gandhi avait tout à fait raison sur cet aspect-là. Il faut quand même vous rappeler que Gandhi, avec une démarche non violente, a réussi à faire plier la plus grande puissance mondiale et à obtenir finalement l'indépendance de l'Inde. Pour moi, c'est une source d'inspiration. Alors, je ne valide pas tous les éléments et tous les aspects de la vie de Gandhi, parce que Gandhi, comme n'importe quel être humain, comme moi y compris, avait des côtés lumineux et des côtés ombres. Et donc, je trouve ça un peu dommage parfois que l'on démolisse Gandhi parce qu'on trouve des aspects de sa vie où il était un peu dictateur ou très dictateur vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de sa femme, etc. Mais peu importe. Moi, ce que j'ai retenu de Gandhi, c'est sa démarche non-violente. Et cette démarche non-violente a démontré la puissance extraordinaire qu'un être humain ou qu'un peuple peut avoir à partir du moment où il décide de dire non merci. Je vais vous donner quelques exemples. Parce que pendant très longtemps, j'ai été en colère contre le lobby pharmaceutique et le lobby médical. Je le suis encore de temps en temps. Mais je me suis rendu compte que c'était un combat de David et Goliath, si vous voulez, qu'il ne me sera jamais possible de faire plier les compagnies pharmaceutiques et tout le système médico-pharmaceutique qui est mis en place et qui est beaucoup plus au service finalement des finances et de la maladie qu'au service de la santé et du bien-être des individus. Par contre, il y a deux choses où j'ai dit non depuis très longtemps dans ma vie. Première chose, c'est que j'ai toujours refusé d'offrir mes services en tant que consultant à des compagnies pharmaceutiques. Voilà, c'était un de mes choix. En tant que formateur en entreprise, je refusais systématiquement d'intervenir pour des compagnies pharmaceutiques, pour des compagnies d'armement et pour des compagnies qui travaillaient dans le domaine du nucléaire. C'était un choix qui a été fait dès le départ. Dès que je suis devenu formateur, pour moi, c'était non. Il n'y avait pas de discussion. J'étais sollicité parce que j'étais un excellent formateur. J'étais très réputé. J'étais un des formateurs les mieux payés de France dans les années 90. Je n'ai jamais travaillé pour une entreprise dans le domaine médical, dans le domaine de l'armement ou dans le domaine du nucléaire. Je ne dis pas pour cela que ce sont des mauvais bougres. Ça heurtait mon système de valeurs. Et donc, j'ai décidé de dire non. C'était ma façon à moi de ne pas favoriser ce monde. Une autre façon pour moi de ne pas favoriser ce monde, c'est d'avoir mis en place toute une série de stratégies pour reprendre le pouvoir sur ma propre santé et faire en sorte que je n'ai plus besoin du tout des compagnies pharmaceutiques, des médicaments et de toute une série de choses qui font partie d'un arsenal de suppression des symptômes, alors que ça fait longtemps que j'avais compris que le corps a tout à l'intérieur de lui pour se rééquilibrer. J'aurai l'occasion peut-être de créer un jour une émission sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook uniquement consacrée à la santé. J'ai écrit des dizaines et des dizaines d'articles sur la santé sur mon blog créerunemeilleurevie.com. Donc je vous invite à aller faire un petit tour de temps en temps sur mon blog. Vous aurez des dizaines d'articles là-dessus. Mais voyez, si tout le monde faisait comme moi, les entreprises pharmaceutiques feraient peut-être faillite ou en tout cas auraient beaucoup moins de profits que ce qu'elles ont aujourd'hui. C'est-à-dire, au lieu de me plaindre des compagnies pharmaceutiques, j'ai simplement dit « non merci ». De la même façon que je n'ai pas vacciné mes enfants, je ne me vaccine jamais et je ne me vaccinerai jamais, même sous la contrainte, je préfère aller en prison que de me faire vacciner, d'aucun vaccin. Mais plutôt que de lutter contre l'industrie des vaccins, il suffit de dire non. Regardez ce qui s'est passé lors de la crise H1N1 en automne 2009. La population française a massivement refusé d'aller se faire vacciner malgré tous les messages de peur et tous les messages de tentatives de manipulation. J'ai été extraordinairement fier de voir que les citoyens avait détecté la manipulation qui était derrière cette grande opération commerciale et avait dit massivement non merci à la vaccination qu'on essayait de leur fourguer dans des conditions sanitaires absolument désastreuses. Et les autorités sanitaires se sont retrouvées avec des millions, des dizaines de millions de doses de vaccins qui ne leur servaient à rien et qu'ils ont dû éliminer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez dit non. Et je vous dis bravo d'avoir dit non à quelque chose qui, de toute façon, allait vous foutre votre santé en l'air. On en a eu des milliers d'exemples de cas d'effets secondaires suite à ce fameux vaccin H1N1. Mais ça, la grande presse n'en a rien dit. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous vous plaignez des OGM ? Mais plutôt que d'aller détruire les champs d'OGM, ce qui est une action que vous pouvez faire aussi pour alerter la population, donc c'est plus une action, je dirais, de communication publique, mais vérifiez simplement l'origine de vos aliments et n'achetez que des produits biologiques et des produits non manipulés génétiquement. Non, merci. Si plus personne n'achète un produit, est-ce que vous croyez que ce produit va continuer à être mis en production? Mais non! Vous avez une puissance d'influence sur le monde beaucoup plus grande que vous ne l'imaginez. Chaque fois que vous dites non à un produit ou à un bien de consommation qu'on vous propose. Mais ça peut aller plus loin. Parce que si notre monde est aussi pourri qu'il ne l'est aujourd'hui, c'est à cause de beaucoup de corruption. Mais la corruption, elle est à tous les étages d'une entreprise, elle est à tous les étages d'un ministère, elle est à tous les étages d'une administration. Si à votre niveau, vous ne laissez déjà plus passer aucune occasion de favoriser la corruption. Et si dès que vous êtes témoin d'une histoire de corruption, vous refusez d'embarquer dans la combine et vous dénoncez cette corruption, oui, peut-être que vous allez perdre votre boulot, mais si vous êtes 100, si vous êtes 1000, si vous êtes 10 000, si vous êtes 100 000 à refuser d'entrer encore dans ce système de corruption, est-ce que vous pensez que la corruption va encore avoir des beaux jours devant elle? J'ai toujours été contre le système de l'armement. J'ai toujours été, pour des raisons morales, pour des raisons éthiques, contre le principe de la guerre. Parce que quand vous regardez, finalement, la guerre est décidée par les puissants pour avoir encore plus de puissance, mais ce sont les malheureux, ce sont les petits, ce sont les faibles qui vont se faire tuer dans les tranchées pour ces gens qui décident la guerre dans leur bureau feutré. Je voulais être cohérent jusqu'au bout avec cela. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refusé de faire mon service militaire qui, à l'époque où j'avais 18 ans, était encore obligatoire en Belgique. Je me suis déclaré objecteur de conscience. J'ai refusé de porter des armes. J'ai refusé la possibilité ou l'éventualité de tuer mon prochain un jour parce que j'aurais été sous les ordres d'un caporal ou d'un commandant dans un conflit armé ou dans une intervention des casques bleus ou peu importe. Donc, j'ai dit « Non, merci, je ne veux pas faire l'armée ». Alors, évidemment, j'ai payé le prix puisque mon service civil m'a coûté 2 ans de ma vie plutôt qu'un an au service militaire. Ça a coûté toute une série de disputes avec ma famille, avec mes proches. Ça a été la honte de mes parents dans le quartier parce que la gendarmerie est venue faire une enquête de bonnes mœurs à mon propos. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de l'affaire. Quand on accepte d'aller au service militaire, dans l'espoir même de tirer sur tout ce qui bouge, là, on ne fait aucune enquête de police. Par contre, lorsque vous dites « je ne veux pas faire la guerre et je ne veux pas faire mon service militaire », là, on fait une enquête auprès des voisins en disant « est-ce qu'il est vraiment non-violent, ce Jean-Jacques Crèvecœur, là, ou est-ce que c'est juste un tir au flanc ?» Vous voyez ce que je dis? Mais je veux revenir sur le non. À partir du moment où j'avais dit non, s'il y avait eu un conflit armé dans les années qui suivaient, ben j'aurais été affecté à la Croix-Rouge, j'aurais été affecté à des services de soutien psychologique des populations, etc. Mais je n'aurais pas été dans une situation où j'aurais dû tuer quelqu'un. Non, merci. Alors réfléchissez à toutes les occasions de votre vie où vous pourriez dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, non, merci. On vous sollicite pour acheter plus vite une nouvelle voiture, alors que votre voiture fonctionne bien. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez tout simplement pas dire au publicitaire, non, merci. Je préfère investir mon argent dans des choses qui donnent beaucoup plus de sens et de valeur à ma vie. C'est la raison pour laquelle le seul domaine où moi, personnellement, je suis un grand consommateur, c'est dans le domaine de la formation. Je consomme énormément de formation, énormément de thérapie, énormément de coaching, parce que j'estime que c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. S'il y a une récession majeure du jour au lendemain, tout ce que j'ai acquis et qui a été intégré dans ma vie, je le garderai. La qualité d'être que j'ai pu acquérir grâce à toutes les formations que j'ai suivies, grâce à tous les coachings que je me suis payé, grâce à toutes les thérapies dont j'ai bénéficié, ça, on ne pourra jamais me l'enlever. Un huissier pourra venir me chercher tous les meubles, tous mes ordinateurs. Je serai empêché de travailler, mais la richesse que j'ai acquise à l'intérieur de moi, ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. C'est pour ça que je dis non de façon très régulière à toute une série de sollicitations commerciales qui me poussent à la consommation. Parce que ce n'est pas comme ça que je serai plus heureux. Ce n'est pas comme ça que vous serez plus heureux. Par contre, vous allez pouvoir retrouver un pouvoir. C'est comme dans l'aïkido, si vous voulez. Vous vous demandiez peut-être pourquoi j'avais un dessin comme celui-là derrière moi. Dans l'aïkido, il n'y a aucune violence. C'est simplement... on s'ancre, vous voyez la posture de la personne qui se trouve derrière moi, on s'ancre dans une posture où on est en contact avec notre puissance, avec notre chi, avec notre intégrité, et on va juste détourner la force de l'adversaire pour le faire basculer. Mais nous n'allons faire nous n'allons exercer aucune violence vis-à-vis des autres. Alors j'espère maintenant que cette petite vidéo vous donnera l'envie, la force, le courage de dire non beaucoup plus souvent dans votre existence et de vous rappeler surtout que dire non, ça n'a strictement rien de négatif. Quatre choses à vous dire rapidement. Première chose, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Continuez comme ça, j'adore vous lire, j'adore vous répondre et vous enrichissez de cette façon la communauté apprenante de tous ceux qui fréquentent cette chaîne YouTube. Deuxième chose, vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir d'autres réflexions complémentaires par rapport au sujet d'aujourd'hui, eh bien voici mes deux suggestions du jour. Il vous suffit de cliquer sur une des deux images pour aller plus loin dans la réflexion qui a été menée aujourd'hui. Troisième chose, si vous voulez être prévenu de chaque mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur la petite icône qui se trouve en bas à droite de l'image pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Quatrième et dernière chose, merci à tous ceux qui partagent déjà le lien des vidéos à ceux qui leur sont chers. Je pense qu'en faisant comme cela, vous faites une différence dans la vie de ceux qui vous sont chers et en leur proposant gratuitement les réflexions que je vous partage tous les vendredis matin. Alors, à très très bientôt. Merci pour votre coopération. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre engagement à grandir en conscience, en amour et en compétences.